Chapitre 11. Tu te souviens du jour où on était ensemble dans la maison du couple âgé, où tu t'es fait kidnapper par Gonzalo? Je hoche la tête. Eymen a fait une gaffe lorsqu'on t'a retrouvé, tu te rappelles? Je me souviens que les paroles d'Eymen m'avaient intrigué. Il avait dit qu'Amir était immunisé contre les drogues, mais Amir l'avait stoppé avant qu'il en dise trop. Je me rappelle. Mes seringues contiennent des calmants, m'avoue Amir. J'en reste bouche bée. Pourquoi t'as besoin de ça? Il me pénètre du regard. Quand l'adrénaline m'envahit, je peux devenir instable et avoir du mal à me contrôler, alors les calmants me régulent. Il s'agit d'une très faible quantité que je prends depuis que je suis gamin et qui m'évite simplement de perdre le contrôle. Je ne veux pas que tu me vois comme une personne instable. C'est pour ça que je t'ai rien dit. J'ai du mal à gérer mes émotions et mes pulsions quand elles sont trop fortes, me confesse Amir. Je comprends mieux. Tu aurais dû m'en parler, j'aurais pu t'aider, tu n'es pas censé me cacher des informations aussi importantes sur toi. Tu as des problèmes d'impulsivité, ce n'est pas ça qui fait de toi une mauvaise personne. Tu dois avoir confiance en moi. Il me regarde sous le choc. J'ai l'impression qu'il s'attendait à ce que je le repousse, à ce que je lui crie dessus alors que ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Tu ne me prends pas pour un fou? Bien sûr que si, je te prends pour un fou depuis longtemps. Finalement, le fait que tu prennes des calmants est le truc le plus normal chez toi. Je me moque. Nous échangeons un sourire. Il vaut mieux détendre l'atmosphère pour ne pas le mettre mal à l'aise. Comment tu as commencé à prendre ces trucs? Je le questionne. Il se tend. Mon père me droguait quand j'étais petit pour que je sois docile. Mais je me suis mis à développer des crises de colère fortes une fois que les effets des médicaments cessaient. Il m'avait tellement bourré de substances que mon corps avait fini par s'habituer à elles. Enfant, j'ai assisté à des trucs qu'un gamin ne devrait pas voir. Et ça a causé des traumatismes chez moi. Donc, quand j'ai un afflux d'émotions, je suis contraint de prendre des calmants pour éviter de déraper. J'aimerais en apprendre davantage sur ces traumatismes, mais je ne veux pas le brusquer. Il est déjà en train de fournir un gros effort en se livrant à moi. Pourquoi ton père te faisait ça? À la mention de son père, il se tend. Il ferme les yeux comme pour se calmer. Il finit par les ouvrir à nouveau. Il voyait énormément de potentiel en moi et ça lui faisait peur. Il craignait que je me rebelle et que je finisse par faire brûler tout son réseau et lui avec. C'est pour ça qu'il a commencé à me droguer, m'avoue-t-il. Ça me rend tellement triste pour lui. Son enfance a été encore plus difficile que ce que je croyais. Tu as besoin de tes doses quand exactement? Lorsque je m'apprête à livrer un combat et que mon intention n'est pas de causer la mort. Les médicaments servent à inhiber ma rage de tuer. Avant, je ne les utilisais que pour éviter de perdre le contrôle sur mes pulsions meurtrières, mais depuis que je t'ai rencontré, je les prends plus fréquemment. Je l'observe, surprise. Je ne comprends pas mon influence sur sa prise de substance. Quoi? Je m'étonne. C'est quoi le rapport avec moi? Quand je suis pris d'une forte passion et excité, je peux devenir incontrôlable et beaucoup trop violent. J'en prends donc pour rester lucide et surtout pour éviter de te faire du mal. Je ne veux pas te blesser. Putain. Les mots d'Erika me reviennent. Il est vrai qu'Amir est un amant brutal au lit. Pourtant, j'avais remarqué qu'il semblait se contenir. Je me rappelle notre première fois. Il était sorti de la chambre pour aller chercher des préservatifs, mais il avait dû s'injecter une dose. Quand nous avons couché ensemble dans le jacuzzi, il est aussi sorti et revenu quelques minutes après. Amir n'est jamais resté avec moi complètement avant nos passages à l'acte parce qu'il avait besoin de temps pour s'injecter. Tu te rappelles la première fois qu'on a failli passer à l'acte dans l'ascenseur? Je hoche la tête. Je me suis stoppée quand j'ai vu qu'en plaquant ta tête contre un mur, tu t'es mise à saigner. Je n'avais pas pris de seringue cette fois-là. J'étais bien trop excitée, mais j'ai réussi à me contrôler pour éviter de te faire du mal. Toutes les autres fois où on a couché ensemble, j'avais pris des calmants avant. M'informe Amir. Je suis abasourdie. Je n'arrive plus à bouger ni à émettre un son. Il est tellement inquiet à l'idée de me blesser qu'il préfère prendre ses doses. Je comprends mieux pourquoi elle s'était stoppée aussi vivement dans l'ascenseur. Il faudra que l'on approfondisse cette discussion, mais ce n'est malheureusement ni le lieu ni le moment. D'où te viennent ces calmants? Tu es sûr que c'est bon pour ta santé? Il y a peut-être des effets secondaires? Tu es en train de te droguer. Il ne faut pas jouer avec ça. Dilara me fournissait des seringues de calmants qu'elle obtenait par l'un de ses amis travaillant dans un laboratoire en Suède. Elle refusait de me donner le numéro de ce mec, parce qu'elle craignait que je me fournisse directement et que je devienne dépendant de ces merdes. Elle voulait contrôler mes prises. Maintenant qu'elle est partie, tu n'en as plus, n'est-ce pas? Eymen craint que je laisse mes démons prendre le dessus sur moi. Mais je sais me contrôler, m'assure Amir en soupirant. Qu'est-ce qui se passe quand tu ne prends pas tes seringues? Il se tord les doigts. Rien, rétorque-t-il sèchement. Réponds-moi, Amir. Il soupire. Quand j'avais 15 ans, j'ai arrêté d'en prendre pendant quelques mois. Je parvenais à me contrôler jusqu'à ce que je me dispute avec mon oncle Naël. Notre altercation est allée tellement loin que je me suis battue avec lui et je l'aurais tué à main nue si les hommes de mon père n'étaient pas venus nous séparer. Me raconte Amir. Je serre instinctivement les poings en entendant le prénom de Naël, qui n'est autre que l'un des violeurs de ma mère. Je ne veux pas entendre le prénom de ce type. Qu'est-ce qu'il avait fait pour t'énerver? Je le questionne. J'étais en froid avec un membre d'un gang rival. Ce fils de putain était venu à la villa de ma famille lors d'une soirée, réunissant tous les alliés de mon paternel. Il avait l'âge de mon père. C'était un homme respecté, mais il me traitait comme un moins que rien, car j'étais un avorton à ses yeux. Je me suis toujours retenu de lui sauter dessus pour éviter une guerre inutile. Mais cette ordure, quand il est venu chez moi, s'est permis d'enfermer Dilara dans une chambre avec lui pour me mettre la pression. Ce souvenir l'enrage. Dilara est sortie de la chambre en pleurs. Ce bâtard l'avait frappée pour me faire payer mon manque de soumission. Elle avait voulu se défendre, mais il était plus fort qu'elle. J'étais prêt à en découdre avec lui, mais Naël m'a retenu et ils ont fait partir ce lâche pour que je ne le touche pas. J'étais si déchaînée et j'avais tellement la haine que je voulais la peau de Naël. Si Dilara n'avait pas été là, j'aurais tué mon oncle. Il souffle. Dilara ne voulait pas que je sois énervée contre lui, mais je me suis montrée hostile et insultant à son égard. Je lui ai même dit qu'il avait certes du cœur, mais pas de couilles, puisqu'il tolérait que ce mec s'en tire après les coups qu'il avait mis à Dilara. Elle était si bouleversée que j'ai dû la prendre dans mes bras pour qu'elle se calme, mais ça n'a pas suffi. Il affiche un petit sourire en pensant à Naël et à Dilara. Ils avaient vraiment toute sa considération et ils comptaient énormément pour lui. Ils ont été ses parents. Je ne sais pas quoi penser de Naël. Cet homme est l'un des plus grands mystères de cette histoire. Maintenant, comment comptes-tu te procurer tes médicaments sans Dilara? Je l'interroge. Je ne sais pas. C'est important, Amir. Je réfléchirai à ça quand on sortira d'ici. Je souris. Tu devrais m'emmener dans ma cellule puis venir me récupérer pour qu'on puisse commencer nos recherches, suggère-t-il. J'approuve l'idée. 21h34. J'ai conduit Amir à sa cellule et il m'a insulté une fois arrivé là-bas devant tout le monde. J'ai joué le rôle de la gardienne furieuse, puis je suis partie en lui disant qu'il avait gagné un tour en cellule d'isolement. Je dois passer pour une grosse ingrate aux yeux des autres puisqu'il m'a sauvé la vie. Je me retrouve dans les vestiaires des gardiens à attendre 22h pour aller récupérer Amir. L'un de mes collègues entre. Je le scrute avec indifférence. Je me souviens que, lors de mon premier séjour ici, il ne me parlait pas, mais qu'il était proche de Franck et Anis. Quand on est proche de personnes aussi malveillantes, on est forcément malveillant soi-même. Il s'agit d'un homme aux cheveux rasés, d'une 40aine d'années, les yeux en amande marron foncé, grand et surtout baraqué. Il s'approche de moi en souriant et je croise mes bras sur ma poitrine. « Tu sais que Franck et Anis étaient mes amis ?» dit-il. « À cause de toi, ils ont perdu leur emploi. Ils ont perdu la vie aussi. Tes amis sont des vermines. » Je réponds en haussant les épaules. « Tu ne regrettes rien. » s'offusque-t-il. « Je devrais. Comment tu peux oser revenir ici après tout le mal que tu as causé ?» Avant que t'arrives dans cette prison, on était tous heureux. T'as détruit de nombreuses vies, déclare-t-il en pestant. Qu'est-ce que tu me racontes? Les détenus étaient traités comme des animaux et personne ne se souciait d'eux. Vous étiez peut-être heureux, mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Vous êtes censé faire régner la loi et non la tourner à votre avantage. Je lui explique. Ironique venant de moi. Tu te prends pour une justicière, c'est ça? Tu penses que tu peux jouer la grande moralisatrice? On cache tous des secrets. Tu aurais dû te ranger du côté de tes collègues et non de ces animaux. » s'exclame-t-il. Je fronce les sourcils. Ils sont humains, vous semblez l'avoir oublié ici. Certains d'entre eux ont commis des atrocités, mais d'autres sont là pour des délits mineurs. De plus, plusieurs ont appris de leurs erreurs et sont devenus des meilleures personnes. Ils ont le droit à la rédemption. Je ne suis pas une justicière, loin de là. Mais je respecte un code d'honneur. Un monstre reste un monstre, même s'il essaie de changer. Tu es bien naïf de croire le contraire, rétorque-t-il. Je suis pas naïve, mais je considère que certains méritent une seconde chance. J'ai commis des atrocités tout comme toi, mais je tente de devenir une personne meilleure. Être humain, c'est apprendre de ses erreurs. T'es en train de défendre des hommes qui t'ont insulté et qui étaient prêts à te tuer. Je ne les défends pas, j'essaie juste de comprendre leur fonctionnement. Les prisonniers sont les oubliés du monde. Ils ne comptent plus, c'est comme s'ils étaient morts. Votre rôle est d'agir dans leur intérêt et de faire en sorte qu'en sortant d'ici, ils deviennent des gens meilleurs. Si on les envoie dans cette prison, ce n'est pas pour qu'ils se fassent tuer ou maltraiter comme des chiens. Je réplique. Il lâche un rire nerveux. Tu réfléchis bien, plaisante-t-il. Je n'ai pas de temps à perdre avec cet idiot. Il vaut mieux que je m'en débarrasse rapidement avant que la discussion ne s'éternise. Je lui donne un coup de genou dans l'entrejambe. Il se recroqueville, il tente de se redresser et déchire un morceau de mon uniforme. J'attrape son pistolet électrique à sa ceinture. Je l'utilise sur lui plusieurs fois jusqu'à ce que son corps s'écroule au sol et qu'il ne bouge plus. Je regarde mon téléphone. Le directeur m'a envoyé un message pour me confirmer que les gardiens des cellules d'isolement ont quitté leur poste. Je contourne le corps de l'homme inconscient, puis je sors des vestiaires. Je me dirige vers les cellules des détenus. Je passe devant eux en ignorant leurs remarques. J'arrive devant celle d'Amir et l'ouvre. Il ne fait pas de commentaires. Je lui mets ses menottes et le fais sortir. Puis, nous arrivons à l'ascenseur. J'appuie sur le bouton et nous entrons dans la cabine. Amir se tourne vers moi. Je lui enlève ses menottes que j'accroche à ma ceinture. Son regard s'assombrit en m'analysant de haut en bas. « Qui t'a fait ça ?» gronde-t-il. « Qui m'a fait quoi ?» Il me fait signe de regarder le bas de mon haut d'uniforme. Je soupire en voyant la grosse déchirure dessus. « Ça n'a pas d'importance, on n'est pas là pour ça. Un gardien a essayé de m'intimider, mais je me suis occupé de lui. Tu n'as pas à t'en faire. » Il baisse les paupières comme pour se calmer, puis les rouvre, sur un regard toujours aussi noir. « On remonte immédiatement. Je vais apprendre à ce fils de pute comment traiter ma femme. » déclare-t-il sèchement. « Il doit être en ébullition. » Je l'ai laissé inconscient. Nous ne sommes pas là pour que tu te battes. » je lui affirme. Il veut appuyer sur le bouton de l'ascenseur, mais je bloque son poignet. « Si tu frappes cet homme, tu risques de t'attirer des problèmes. Il faut que tu te contiennes, Amir. Ne laisse pas ta fierté dicter ta conduite. » « C'est pas une question de fierté, je veux uniquement lui faire payer son geste. »« Je m'en suis déjà chargée, tu dois me faire confiance pour gérer ce genre de problème, tu ne seras pas toujours là. »« C'est bien ça le problème, je suis censé être toujours là. À quoi ça sert d'être un homme puissant si on peut pas protéger sa femme ?» Je lâche un rire qui le déstabilise. « Pourquoi tu rigoles ?»« T'es vraiment mignon. » Je lui avoue. Il rougit et se met à se gratter la tête tout en regardant le plafond. « Oublie ce mec, » je lui dis. Il est si gêné qu'il ne me regarde plus dans les yeux. Nous arrivons à notre étage, la porte de l'ascenseur s'ouvre. Amir m'attrape par le bras et me serre contre lui. Il dépose un baiser sur mes cheveux. Il me relâche et nous sortons de cet ascenseur. Nous arrivons devant la cellule d'isolement. Je sors mon trousseau, cherche la bonne clé puis l'insère dans la serrure. Deux hommes sont dans la cellule. L'un est adossé contre un mur, tandis que l'autre est assis en tailleur dans un coin. Celui qui est adossé au mur est hispanique. Il a le teint mat, des cheveux longs bruns lui arrivant aux épaules, des yeux marron foncé ronds, un nez bossu qui semble avoir reçu un mauvais coup, sa lèvre inférieure est fendue. Il doit avoir une quarantaine d'années au vu de ses nombreuses rides. Il est grand et enrobé. Il arbore un tatouage sous l'œil droit qui représente un 2 en chiffres romains, ainsi qu'un serpent sur le côté du cou. Celui en tailleur a la peau blanche, le crâne rasé, le nez aquilin, des yeux bleu foncé en amande, des lèvres roses charnues et une énorme cicatrice au niveau du front. Il semble un peu plus petit que l'autre, mais doit avoir une quarantaine d'années aussi. Amir se place en face de moi. Les deux hommes sourient, mais ils ne m'inspirent pas confiance. « Regarde, Yuri, on a de la visite !» commente l'hispanique. Je vois ça, Ramon. Qu'est-ce qu'une gardienne et un détenu peuvent bien venir faire dans une cellule d'isolement? Il est clair qu'elle n'est pas venue l'enfermer ici puisqu'il n'a pas de menottes. Se moque le dénommé Yuri. Et puis, il se tient devant elle comme un loup protégeant sa louve. Hey, « Hé, tu ne veux pas qu'on touche à ta gonzesse, c'est ça ?» lui demande Ramon en rigolant. Ça aurait été trop simple qu'il soit juste en train de dormir. « Restez tranquille et faites comme si vous ne nous voyez pas. » commande Amir. « Où est-ce que t'es partie la chercher, celle-là? C'est rare les femmes aussi jolies ici. » reprend Ramon. Amir s'approche furieusement de lui et l'attrape par le cou. Il le soulève, les pieds de Ramon ne touchent plus le sol. Yuri s'en amuse, tandis que Ramon est pris de court. « Tu te prends pour qui pour parler d'elle? Baisse les yeux quand tu la vois !» rage Amir. « Tu défends l'honneur de ta copine, c'est bien !» déclare Yuri. Je pose ma main sur l'épaule d'Amir. « Il n'en vaut pas la peine !» je lui murmure. Amir soupire, puis lâche Ramon, qui perd l'équilibre et tombe. « Surveille ton langage si tu veux pas que je vienne te couper la langue !» le menace Amir. Yuri détaille Amir de haut en bas, toujours amusé. Mais quand son regard se porte sur la main d'Amir, il devient grave. « Comment t'as obtenu cette chevalière ?» lui demande-t-il. Amir hausse les sourcils. « Elle appartenait à un membre de ma famille, » répond Amir avec indifférence. Yuri ouvre grand les yeux. Il ne bouge plus, mais observe attentivement Amir, comme s'il était en face d'un fantôme. « Qui es-tu ? » demande Yuri. « Amir Ben Khalif. » Apprenant le nom d'Amir, le détenu écarquille les yeux. Il passe du choc à une sorte d'émerveillement. « Ben Khalif, comme Nahel Ben Khalif ?» Amir s'étonne que l'homme connaisse son oncle, puis il acquiesce. Yuri paraît heureux. « Je ne pensais pas te revoir un jour, Amir, et encore moins dans ces conditions, » déclare Yuri. Amir est surpris par le ton familier avec lequel cet homme l'aborde. Il tente de se remémorer cette personne, mais son visage ne semble rien lui dire. Mais Yuri n'a pas l'air d'être un ennemi. C'est même tout l'inverse. « Pourquoi tu parles comme si on se connaissait? Comment connais-tu mon oncle ?»« Je me souviens t'avoir aperçu à l'enterrement de Nahel. Tu étais bien plus jeune, c'est pourquoi je t'ai pas reconnu tout de suite. T'as bien grandi et t'es devenu un homme. Tu ne te souviens pas de moi puisque je n'ai pas suscité ton intérêt, mais tu as fortement suscité le mien. » admet Yuri en affichant un sourire sincère. «